J'ai vraiment à cœur de partager d'abord la parole de Dieu, et on va le faire en se basant sur ce texte de Philémon, Philémon verset 4. Vous avez entendu que j'ai pas dit de chapitre, puisqu'il n'y a qu'un seul chapitre dans l'épître à Philémon. Et dans cette épître, nous voyons une prière de l'apôtre Paul, une autre prière. Et on sait que dans la parole de Dieu, il y en a plusieurs des prières qui sont merveilleuses de l'apôtre Paul et qui nous inspirent. Philémon, verset 4. « Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur et de ta charité ou de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Jésus-Christ. Amen. » Une autre version dit que la foi qui nous unit soit efficace pour la cause de Christ. Et je voudrais insister ce matin sur cette réalité qu'il existe la cause de Christ. Il y a beaucoup de causes que les gens de la terre défendent. On en entend parler tout le temps. Un exemple très simple, quand vous avez tous regardé le Tour de France qui passait dans le Gers, soit en vrai, soit à la télévision, à un moment donné, il y a eu un temps d'arrêt parce qu'il y avait des gens qui défendaient une cause. Et je ne veux pas rentrer dans le débat si c'était bien ou si c'était pas bien. Mais il y a plein de gens qui défendent plein de causes différentes. Mais quand on est croyant, que nous le voulions ou non, la cause que nous devons défendre, c'est celle-ci, la cause de Christ. Et j'aime cette expression que l'apôtre Paul emploie, que ta foi soit efficace pour la cause de Christ. Comment est-ce que c'est possible qu'il y ait de la foi pas efficace? Eh bien oui. Comme c'est possible qu'il y ait la foi morte. D'accord? Quand on étudie la Bible, on voit que c'est pas parce qu'on a la foi que forcément c'est bien. Quand on a la foi, la bonne foi, la foi de la qualité que Dieu veut, oui, c'est bien. La foi qui correspond à la parole de Dieu, c'est magnifique. Mais Jésus va dire, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et je peux vous donner la réponse. Oui, ils vont trouver beaucoup de la foi. Mais est-ce que ça sera la foi que Dieu attend? Ça, c'est une autre question. Bien sûr, il y en aura parmi ceux qui vont être enlevés, qui auront la foi, et j'espère que nous serons tous de la partie à ce moment donné où nous rejoindrons le Seigneur dans le ciel. Mais la question se pose, et c'est pour ça que c'est intéressant, cette prière de l'apôtre Paul, que notre foi soit efficace pour la cause de Christ. Il y a une cause de Christ à défendre, à plaider, à lutter de toutes nos forces, pas avec les armes des hommes, mais avec la puissance du Saint-Esprit. C'est le seul moyen. Alors la bonne question, c'est quelle est la cause de Christ? Et c'est justement le thème du message ce matin, c'est de préciser cela. On a parlé il y a quelques dimanches en arrière, alors les vacances sont passées pour certains entre-temps, mais j'espère que vous vous souviendrez de cette histoire, d'ailleurs c'est une histoire de la Bible, donc normalement vous en souvenez, le jeune homme riche. On a parlé du jeune homme riche qui est venu voir le Seigneur Jésus. Je réfléchissais encore à cette histoire. C'est quelqu'un qui est venu au bon moment. Il était jeune. Il est venu auprès de la bonne personne, Jésus. Il a posé la bonne question. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il a obtenu la bonne réponse de Jésus. Et le résultat, pourtant, c'est qu'il est parti tout triste. Parce qu'il a fait le mauvais choix. Mais ce qui est intéressant, et ce sur quoi je voudrais insister, je ne veux pas revenir sur ça, je veux insister sur l'enseignement que le Seigneur a donné après. Dans cet enseignement que le Seigneur a donné, vous savez que souvent Jésus enseignait ses disciples en se basant sur ce qu'il venait de vivre, sur ce qu'il venait de voir. Parfois c'était des miracles, parfois c'était des questions des pharisiens, parfois c'était des exemples comme cet homme qui a fait un mauvais choix, mais Jésus se sert de cet exemple pour enseigner. Vous savez qu'on peut être enseigné par tous les moyens. Et souvent, bien souvent, le Seigneur nous apprend plus de nos erreurs que de nos victoires. Parce que quand on s'est pris un mur, ben on va réfléchir à ne pas se le reprendre une deuxième fois. Si on laisse le Seigneur, bien sûr, nous enseigner. Et dans les enseignements qu'il va donner, on peut aller par exemple dans Marc chapitre 10, il y a une expression qui va revenir, mais dans les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, l'expression a une nuance, et on va insister sur la nuance qui est donnée par le Seigneur Jésus ce matin. Marc chapitre 10, verset 28, donc on arrive tout à la fin, le jeune homme riche vient tout juste de repartir. Et Pierre va va poser la question parce qu'il, du coup, il est un peu interpellé. Mais Seigneur, nous, on a tout quitté. Nous, on a tout quitté. On t'a suivi. Nous, on a fait le bon choix. Alors, au verset 29, Jésus répondit, je vous le dis, en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Remarquez l'expression qu'il va dire au tout début du verset 29, « ayant quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle ». Quand on étudiera le texte de Matthieu, qui rapporte la même histoire, et le texte de Luc, on verra qu'il y a une nuance dans cela. Mais la cause de Christ, ça commence par faire ce qu'il faut à cause de Jésus et à cause de la bonne nouvelle. La cause de Christ, c'est quoi? C'est d'abord porter la bonne nouvelle. Porter la nouvelle. Alors dès qu'on pense à porter la nouvelle, on dit « Oui, qu'est-ce qu'il faut que je crie à tout le monde dans la rue? Qu'est-ce qu'il faut que je dise ?» Non, non, porter d'abord, porter. Avant de pouvoir parler de quelque chose, il faut déjà le recevoir. Et il faut l'entretenir. La cause de Christ, c'est porter dans notre vie de tous les jours, porter dans notre témoignage la bonne nouvelle. Le tout début, vous connaissez la première prédication de Jésus qu'on trouve dans l'évangile de Marc. Est-ce que vous la connaissez? C'est très simple. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à quoi? À la bonne nouvelle. C'est pas difficile, hein, la prédication. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comment est-ce que nous recevons la bonne nouvelle? La première étape, elle est très simple, mais c'est important de la rappeler parce qu'on est dans un monde qui refuse ce genre d'enseignement aujourd'hui. La première étape pour recevoir la bonne nouvelle, c'est la repentance. Repentez-vous et croyez. La repentance et la foi ne sont pas indissociables, sont indissociables, pardon. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas couper le lien qui lui existe. Il y a un prédicateur, Dwight Moody, qui a dit que la repentance, c'est la larme dans l'œil de la foi. Je trouve que c'est bien dit. Parce qu'aujourd'hui, on parle de foi qui déplace les montagnes, de foi qui croit au miracle et tout ça, et on ne parle pas beaucoup de la repentance. Alors que le premier grand miracle, le premier miracle de tous les temps, c'est que Jésus à la croix est mort pour que quand on se repent, on soit pardonné. Vous êtes d'accord avec ça? La repentance. Pas juste un petit regret, ah j'ai fait le mal, ben tant pis, je le ferai pas la prochaine fois. Non, c'est pas ça. C'est un changement total de mentalité qui conduit à un changement total de cœur, qui conduit à un changement total de direction. C'est ça la repentance, selon la parole de Dieu. Un demi-tour. Changement de mentalité qui nous amène à suivre le Seigneur. Et on ne peut pas suivre et avoir la foi en Jésus si on ne se repent pas, si on ne fait pas demi-tour par rapport à notre péché. On entend beaucoup parler d'un Jésus qu'on vient ajouter à notre vie, qui va faire du bonus dans notre vie, c'est une option positive dans notre vie. Mais Jésus ne peut pas venir si on ne se soustrait pas du péché. Et le seul qui peut nous en soustraire d'ailleurs, c'est lui. Hein. C'est ce qu'on a entendu au travers des chants et de ce que Joël nous disait. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de croire en Jésus et en sa mort à la croix et à sa résurrection. C'est quoi la bonne nouvelle? Au temps de Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il annonçait Jean-Baptiste? Le Messie arrive, Jésus va venir. Et quand Jésus va se présenter, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était ça la bonne nouvelle, Jésus va venir. Attendez-vous à ce que le Messie vienne. Aujourd'hui, c'est plus ça la bonne nouvelle, puisque Jésus est venu. Alors la bonne nouvelle qu'on annonce nous, c'est Jésus est venu, mais Jésus va revenir. Jésus va revenir chercher ses élus, par sa grâce, que son nom soit béni. Marc chapitre 8, verset 34, on voit que porter la bonne nouvelle ne peut se faire que à 100%. Vous savez, l'évangile qui dit « je prends un petit peu de Jésus et un petit peu du monde », mais ce n'est pas l'évangile, tout simplement. D'ailleurs, on a des mots barbares, hein, il faut l'avouer. Je vous l'ai déjà dit, mais souvent on emploie des mots sacralisés, alors que le mot, par exemple, « évangile », ça veut tout simplement dire « bonne nouvelle ». À l'époque, quand les gens, la maman venait de mettre au monde un enfant, on allait apporter l'évangile au papa. On allait apporter la bonne nouvelle au papa. Vous comprenez? C'était un terme commun. Et les temps fait qu'on a sacralisé des mots, mais qui sont très simples, qui veulent simplement dire bonne nouvelle. Et église évangélique, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une église où on annonce la bonne nouvelle, tout simplement. Et c'est ce qu'on fait encore ce matin. Marc chapitre 8, verset 34, Jésus interpelle la foule et ses disciples. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Ce sont des versets très forts, très solennels. Et on voit que Jésus ne cherchait pas à rassembler les foules, forcément. Hein. Les foules étaient là à cause des miracles, mais quand ils entendaient l'enseignement, certains y repartaient, parce que c'était trop ardu pour eux. Mais Jésus nous a laissé sa parole, et j'espère que ce matin, vous ne trouvez pas la parole de Dieu trop ardue. La parole de Dieu, elle est la parole de Dieu. Qui ne sommes-nous pour pouvoir juger si la parole de Dieu est trop sévère ou trop pas assez sévère? C'est pas notre rôle, ça. Notre rôle, c'est de nous repentir, de nous soumettre et d'obéir. Voulons-nous que notre âme soit sauvée? Si on posait la question à tous les hommes, même ceux qui connaissent pas Dieu, je pense qu'il, quelque part, ils diraient oui. Mais est-ce que nous réalisons qu'il y a un prix à payer? Oui, c'est vrai. Le prix immense pour effacer notre péché, on ne pouvait pas le payer nous, c'est Jésus qui l'a payé. Mais il y a un prix à payer pour suivre le Seigneur. Et c'est ce qui nous est rappelé dans ce verset. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Alors perdre sa vie, ça ne veut pas forcément dire mourir. Bien qu'on sait qu'il y ait des gens dans les passés, et même encore aujourd'hui, qui perdent leur vie à cause de la foi. Mais ceux qui donnent à 100% leur vie, qui dépensent à 100% leur vie à cause de Jésus et de la bonne nouvelle, c'est ceux-là qui seront sauvés par la grâce de Dieu. Avant, ils auront reçu le salut de Dieu par la foi, par la repentance. Mais après, il y a cette dynamique dans laquelle nous marchons pour suivre le Seigneur. Renoncer à soi, se charger de sa croix, suivre. Dans Marc chapitre 16, un verset qu'on connaît par cœur, quand Jésus donne la mission aux disciples, verset 15, il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez quoi ?» Ce que vous avez envie, ce qui fait plaisir aux gens. C'est ça ? Non, la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui croient entrent dans une dimension, ceux qui proclament la bonne nouvelle entrent dans cette dimension spirituelle. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Et il y a aussi la dimension surnaturelle. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Voilà ce qui accompagne l'annonce de la bonne nouvelle. La question que je me pose dans notre pays de France, est-ce que les démons ont disparu? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est pas courant hein, aujourd'hui de voir des personnes malheureusement délivrées. Alors que, est-ce que vous pensez qu'il n'y en a plus? Ou est-ce que vous pensez qu'il y en a encore? Et que c'est peut-être caché? Et que peut-être aussi, moi je pense plutôt dans cet aspect-là, c'est que l'Église a besoin de retrouver un amour pour le Seigneur, une cause à défendre, la cause de Christ à défendre avec intensité, avec vérité. Parce que c'est facile, on partage de belles paroles ce matin, de beaux versets, mais après il appartient à chacun de vivre ce que nous partageons. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et combien, même qui aiment le Seigneur, essayent quand même de sauver un petit peu de leur vie, un petit peu de leur confort. Et ils ne sont pas prêts à perdre certaines choses pour la cause de Christ. Mais je crois que si nous relevons les manches et si nous prenons à cœur ce défi de nous battre pour la cause de Christ spirituellement, il ne s'agit pas de se cogner, hein, mais de nous battre spirituellement. Mais je crois que nous verrons encore des personnes délivrées, des puissances démoniaques, des personnes guéries, des personnes baptisées dans le Saint-Esprit, des personnes converties. Le premier des miracles, c'est bien sûr la conversion. Alors ne vous amusez pas. Ah oui, moi j'ai la foi, je vais boire de la Javel non diluée et le Seigneur va me garder. Ben, essayez de le faire. Vous reviendrez me voir, mais j'enverrai l'ambulance avant chez vous. Parce que c'est pas ça la foi. Ça, c'est la folie. Il ne s'agit pas de boire des breuvages mortels volontairement. Il s'agit de ceux qui sont parfois empoisonnés à cause de leur foi et que le Seigneur va garder. On sait que l'apôtre Paul, lui, a vécu cette réalité. Il a pris un morceau de bois. Il n'a pas dit « Je vais me jeter dans la fosse au serpent et le Seigneur va me garder. » Non, non. Il a pris un morceau de bois pour allumer du feu parce qu'ils étaient tout mouillés. Ce qu'on aurait tous fait, hein. Un serpent l'a mordu. Mais il n'y a rien qui s'est passé. Et ce qu'il a vécu, ça a été l'occasion d'annoncer la bonne nouvelle, encore une fois. Nous avons besoin de porter la bonne nouvelle et de vivre cette dimension, ces dimensions spirituelles et surnaturelles. Mais nous savons que cela ne dépend que du Seigneur et de notre implication dans la cause de Christ. Dans Matthieu chapitre 19, maintenant, nous allons voir le verset correspondant au premier que nous avons lu, qui concerne l'enseignement après l'histoire du jeune homme riche. Matthieu chapitre 19, verset 29. Il était question de quitter à cause de moi, de Jésus et de la bonne nouvelle. Et là, regardez, quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Je repensais à ces choses quand je préparais ce message. C'est que j'ai perdu mes deux grands-pères quand j'étais enfant, tout jeune. Il y en a un j'ai connu très peu, l'autre un petit peu plus, mais je dois avoir une dizaine d'années. Et j'ai perdu mes deux grands-mères il y a quelques années en arrière. Mais j'ai réfléchi, je me suis dit, avec la grâce de Dieu et la famille de Dieu, j'ai retrouvé plein de grands-pères et de grands-mères. Et c'est pour ça que ce verset, je le comprends. Alors là, je ne l'ai pas quitté, comment dire? C'est la mort qui l'a fait quitter, d'accord? Mais quand on croit au Seigneur, le Seigneur nous permet de retrouver une famille, de retrouver des hommes et des femmes, de retrouver des connaissances, des relations, etc. Alors il ne s'agit pas de posséder des maisons en milliers, d'ouvrir une agence immobilière, parce que le Seigneur va nous rendre au centuple si on lui donne sa maison. Ça, c'est les raisonnements humains, ça. Mais il s'agit de retrouver l'opportunité chez quelqu'un d'être accueilli. Vous connaissez l'hospitalité? La Bible d'ailleurs parle que c'est un don, l'hospitalité. Le fait de recevoir des personnes chez soi, de les accueillir comme si... Qu'est-ce qu'on dit quand on accueille quelqu'un? Faites comme chez vous. Vous comprenez? C'est ça cette réalité, de recevoir des maisons. Et quand on est croyant, c'est ça. Est-ce qu'on vient juste à l'église, on se dit bonjour à l'église, et puis hop, la semaine, on oublie totalement qui sont les autres personnes? C'est ça la dimension de la communion fraternelle, ou c'est la dimension d'être ensemble, et que quand il y a un souci, on est là, et que quand il y a une joie, on est là aussi, et on prend des nouvelles les uns des autres, et il y a cet amour qui est là présent au moment du culte, mais qui continue pendant toute la semaine. Alors, vous allez me dire, on a besoin de faire des progrès. Eh bien, je suis d'accord, mais que le Seigneur nous aide, parce qu'on voit que quand on suit le Seigneur, quand on quitte les choses à cause de son nom, cette fois-ci, c'est précisé à cause de son nom, le Seigneur nous donne au centuple et de toutes sortes de manières différentes. La cause de Christ, c'est agir pour et au nom de Christ. Et on sait que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de versets, on va voir quelques-uns, qui nous parlent de faire certaines choses au nom de Jésus. Par exemple, dans Matthieu, vous êtes dans Matthieu toujours, on va aller dans Matthieu 10, donc pas très très loin. Jésus est en train d'enseigner ses disciples avant de les envoyer en mission. Matthieu chapitre 10, verset 22. Ben, on peut lire le verset 21 pour commencer le paragraphe. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La cause de Christ, c'est accepter le fait que quand on a la foi, il y a de l'hostilité contre nous. C'est pas à nous d'être hostiles contre les autres, puisque nous, on est chargés d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais on sait que quand on aime notre prochain comme nous-mêmes, et quand on aime le Seigneur de tout notre cœur, ça va déranger des personnes. C'est la réalité. Et il faut l'accepter. Si on ne veut pas qu'on se moque de nous, si on ne veut pas qu'on nous maltraite même parfois, qu'on vive des injustices à cause de la foi, ben ne devenons pas chrétiens. Je vous le dis tout de suite. Mais quand on est croyant, on sait que c'est une réalité. Mais le Seigneur nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Il nous donne toujours l'espérance, hein, attention. Il nous prévient, il nous met au parfum de ce que c'est la réalité de la foi, mais il nous donne l'espérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu dira ailleurs, en reprenant cette portion, l'amour du plus grand nombre refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La même conclusion. L'amour du plus grand nombre refroidira. Quand j'ai lu ce verset la première fois, je me suis dit, Seigneur, je ne veux pas être dans le plus grand nombre. Je ne sais pas comment vous lisez ce verset, mais moi c'est ça qui est tout de suite. Seigneur, moi je veux rester dans l'amour qui ne se refroidit pas. Je veux rester dans cet amour intense pour toi. Et renouvelle en moi ton amour, renouvelle en moi cette intelligence afin que je fasse ce qu'il faut pour entretenir l'amour pour toi. Parce que la foi, elle est agissante par l'amour. Encore un autre verset, je ne vous cite pas toutes les références ce matin. Regardez dans Matthieu 18, verset 5. Le chapitre 18 mériterait qu'on s'y attarde longuement, mais ce n'est pas ce qu'on va faire. Faites-le à la maison. « Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Les gens, les disciples étaient là en train de dire « Qui c'est le plus grand, Seigneur, dis-nous, lequel de nous c'est le meilleur de tous, de la bande ?» Et Jésus prend un petit enfant et il dit « Voilà qui est le plus grand. » Donc ça a mis un vent, ça a clashé, comme diraient les jeunes, les disciples. Mais ils avaient besoin de ça pour être marqués dans leur intelligence. Qui c'est le plus grand? Et parfois on voudrait se comparer, on voudrait savoir si on est mieux que l'autre ou pas. Mais ce n'est pas la question qui nous intéresse. La question qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on est capable de recevoir même un petit enfant. Même quelqu'un qu'on considère comme pas intéressant. Ben, on doit le recevoir dans le nom de Jésus. Recevoir en mon nom un petit enfant. C'est intéressant quand même cette histoire. Vous savez, je vais être très pratique, mais parfois il y a des gens à l'église auprès de qui on a moins d'accroche que d'autres, mais on est chargé par le Seigneur de les recevoir en son nom que les autres. Et c'est intéressant de réfléchir à ça. Peut-être qu'on va croiser quelqu'un dans la rue qu'on n'a pas envie d'aller voir, mais on est chargé de le recevoir en son nom. C'est ça porter la bonne nouvelle. C'est ça agir dans le nom du Seigneur. On sait, on comprend que les trois passages que nous lisons là dans Matthieu, Marc et Luc qui parlent de la même expression, quitter à cause de la bonne nouvelle, quitter à cause de son nom, et on va voir quitter à cause du royaume de Dieu, ça veut dire la même chose en fait tout ça. C'est juste une façon différente de voir les choses, mais c'est la même expression. C'est la cause de Christ. Ce matin, nous parlons de la cause de Christ et nous sommes chargés en tant que croyants, nous qui portons le nom de Christ, d'agir au nom de Christ. Matthieu 18, toujours verset 19, un verset qu'on aime beaucoup. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Ce matin, nous sommes assemblés au nom du Seigneur. Et il y a une réalité qu'on passe vite souvent dessus, c'est que quand le verset 19 nous dit, quand on s'accorde, quand on prie ensemble et rassemblé dans un même lieu en plus, c'est précisé, donc la prière de l'Église qui est dans ce rassemblement ensemble, mais Dieu l'écoute particulièrement. Vous allez me dire, moi je prie à la maison, et c'est très bien, il faut continuer. Mais il y a quelque chose de spécial quand nous sommes assemblés dans le nom du Seigneur pour faire connaître les prières, les besoins et les intercessions au Seigneur. Bien sûr, il connaît tout, hein, mais c'est surtout que nous soyons dans cette attitude de prière et d'accord, s'accorder sur la terre pour demander dans le nom du Seigneur. Je réfléchissais, je me disais, mais qu'est-ce qu'ont pu retenir les disciples de tous ces enseignements du Seigneur? On a des exemples. Par exemple, si on va dans 1 Jean, Qu'est-ce que l'apôtre Jean a retenu du fait d'agir dans le nom du Seigneur ? 1 Jean chapitre 2 verset 12, vous savez ce qu'il va dire ? Alors, ne le cherchez pas, je le lis pour vous. « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Voilà ce que va retenir l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour. « Nos péchés sont pardonnés à cause de son nom. » Ça rejoint ce qu'on parlait sur la repentance. « À cause du nom de Jésus, je peux être pardonné. » Ce matin, quelqu'un a besoin d'entendre cette parole parce qu'il a fait quelque chose de répréhensible. Mais il n'y a pas... Il y a de l'espoir encore ce matin, parce qu'à cause de son nom, nous sommes pardonnés. Et la cause de Christ, c'est que quand je fais le mal et que je m'en rends compte, je demande pardon, à cause de son nom, je suis pardonné. Et je continue d'avancer. Je ne reste pas accablé toute ma vie en traînant des boulets de péché derrière moi parce que je n'arrive pas à m'en dépêtre. Non, la cause de Christ, c'est que je suis pardonné par la grâce de Dieu et je peux avancer, marcher dans la pureté, dans la sanctification, parce que le Seigneur m'en donne la force. Qu'est-ce que va retenir l'apôtre Pierre ? 1 Pierre 4, verset 16. « Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, le nom de chrétien. » Porter le nom de Christ ne doit pas nous amener à nous plaindre. « Oh, encore, on s'est moqué de moi, encore, oh, j'ai vécu ceci ou cela. » Non, glorifions Dieu. Vous savez, Pierre, il sait de quoi il parle. Parce que lui, il n'a pas juste reçu de la honte, il a reçu des coups de bâton, il a reçu peut-être même des coups de poing, il a reçu en tout cas des mauvais traitements physiques, et quand il est sorti de là, il n'était pas en dépression, il était dans la joie d'avoir été jugé digne d'être persécuté pour le nom de Jésus. Oh, c'est miraculeux ça. C'est complètement miraculeux. On a besoin que le Seigneur nous aide à avoir cette mentalité-là. Mais c'est ça, agir au nom de Jésus. On porte le nom de Jésus dans notre vie. On porte la bonne nouvelle. Et peu importe ce qui peut se passer, notre désir, c'est que le nom de Jésus soit toujours glorifié. Qu'il y ait des souffrances, qu'il y ait des bénédictions, qu'il y ait des miracles, qu'il n'y ait pas de miracles. Peu importe, que le nom de Jésus soit glorifié. Voilà la cause de Christ. Glorifier le nom de Jésus. On termine avec ce passage dans Luc maintenant. Luc 18. Celui-là, vous êtes invité à y aller si vous avez votre Bible, pour qu'on le lise ensemble. Luc 18, verset 29. La même parole donc, et le même enseignement de Jésus avec la nuance. « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou ses parents, ou ses frères, ou sa femme, ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. » La vie éternelle. Si la cause de Christ, c'est d'agir au nom de Jésus, la cause de Christ, c'est aussi de vivre le royaume de Dieu. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu. Et vous regarderez, il y a plusieurs fois où il y a des récits ou des enseignements de Jésus, où il met une nuance dans les trois évangiles. Vous regarderez, c'est très intéressant. Bon, ça demande de la recherche, hein. Mais quand on entre dans le texte et quand on s'aperçoit de ces nuances que le Seigneur donne, ben ça nous fait avancer spirituellement. Dans Luc chapitre 6, verset 20, ce sermon sur la montagne que le Seigneur va faire, il va dire « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous ». Être pauvre, on sait, Matthieu va préciser, ceux qui sont pauvres en esprit. Il n'est pas question d'argent, il est question de spiritualité, d'un cœur. Est-ce que je suis pauvre dans mon cœur ? Qui est riche dans son cœur ? Par lui-même, personne. Mais par la grâce de Dieu. Nous sommes tous pauvres, mais Christ s'est fait pauvre pour que nous puissions être enrichis. La richesse de la présence de Dieu, la richesse du Saint-Esprit, la richesse de la vie avec Dieu, la richesse de la parole de Dieu. Il y a tellement de richesses, mais ça c'est possible quand on pénètre, quand on entre. Jésus avec cette expression, entrer dans le royaume de Dieu. Et il a dit à tellement de reprises, s'il y a ces conditions-là, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Mais celui qui vient comme un enfant, il entrera par exemple dans le royaume de Dieu. Ça nous parle... D'un côté, la pauvreté de ce désir d'avoir plus, et de l'autre côté, de la suffisance. Moi, ça va, j'ai pas besoin. Pour moi, il y en a assez. Mais quand on est dans La suffisance, on n'est pas dans le royaume de Dieu. Celui qui est dans le royaume de Dieu, il est dans la pauvreté spirituelle. Il bénéficie de la richesse, mais il sait qu'il est pauvre, c'est tout. D'accord? C'est comme un pauvre qui est à la table dans un festin royal organisé et il a été invité. Il y a même cette parabole qui est donnée dans l'évangile, hein, où les pauvres dans les rues, on les presse pour rentrer dans la salle parce que ceux qui ont été invités, ils ne voulaient pas y aller. La suffisance! Mais parce que nous réalisons notre pauvreté, nous bénéficions du festin royal. Et alors, celui qui y aura dans le ciel, là, ça sera encore davantage. Vous avez tous mangé des bons produits sur la terre, mais ça n'a rien, ça n'arrive pas à la cheville de ce qu'il y aura dans le ciel. C'est pour ça que ça vaut la peine d'y aller, juste pour ça. Il y a tellement d'autres raisons quand même, mais par curiosité, ça vaut la peine de savoir qu'on sera invité à la noce de notre Seigneur, Jésus avec son Église. Dans Luc 8, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Il nous a été donné, parce que c'est aux disciples qui parlent, mais à tous les disciples, il nous est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Est-ce qu'on réalise la grâce que le Seigneur nous fait? Tellement de gens dans ce monde sont aveugles par rapport à la parole de Dieu. Ils la lisent, mais ils ne comprennent pas le message d'amour, de paix, de grâce. Mais parce que nous avons choisi le chemin de la repentance et de l'obéissance et de la foi, il nous est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Il y a des beaux mystères dans le royaume de Dieu. Je crois qu'il y a une prière qui a dit le mystère de la croix. C'est un mystère, la croix. Le mystère du Saint-Esprit qui habite en nous, c'est un mystère aussi. Il y a tellement de mystères. Mais il nous est donné de les connaître, ces mystères. On n'est pas obligé de ne rien comprendre. On n'est pas obligé de tout comprendre non plus, attention, parce qu'il y en a, ils veulent tout comprendre. Moi, je veux m'engager avec le Seigneur si je comprends tout. Eh bien, tu t'engageras jamais. Parce que même les plus fervents et intellectuels croyants de tous les temps, ils sont toujours dit, moi j'ai besoin de connaître encore le Seigneur. Est-ce que nous voulons approfondir notre connaissance? Ou est-ce que nous sommes satisfaits? Je finis avec ce dernier verset. On le connaît mieux dans Matthieu, la version de Matthieu, mais c'est la même pensée qui est là dans Luc. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez le royaume de Dieu. Vivre le royaume de Dieu, c'est pas vivre un petit peu la fleur au fusil en pensant que tout nous tombe comme ça, tout cuit. C'est une recherche continuelle. On voit que les trois versets, en fait, ils disent la même chose. On peut pas se contenter. On peut pas dire « je suis satisfait ». Il y a un pasteur qui a dit « la seule satisfaction que j'ai, c'est d'être insatisfait ». L'insatisfaction pour les choses de Dieu, attention, il veut toujours plus du Seigneur. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Bien sûr qu'on est content de ce que l'on a, on remercie, on est reconnaissant, mais je veux toujours plus. Le Seigneur me donne ça, je veux encore plus. Parce que je sais que sa main est infini et qu'il veut me bénir. Cherchez le royaume de Dieu. C'est ça la cause de Christ. La cause de Christ, c'est chercher. C'est passer ce temps avec cette ferveur pour savoir quelle est la volonté de Dieu dans ma vie, pour savoir ce que le Seigneur veut que je fasse, pour savoir à quoi le Seigneur m'appelle, qu'est-ce que Dieu veut pour ma famille, qu'est-ce que Dieu veut pour mon travail, pour mon logement, etc. Le Seigneur veut tellement et tellement. Mais est-ce que nous le recherchons? Dans Matthieu, c'est chercher premièrement. Chercher premièrement le royaume de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Défendre la cause de Christ, c'est rentrer dans ces réalités-là. Que notre foi soit efficace pour la cause de Christ. Portons la bonne nouvelle dans nos vies. Agissons dans le nom du Seigneur et vivons le royaume de Dieu. Amen. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour cet enseignement que tu nous donnes au travers de ces trois évangiles. Nous comprenons ce matin quelle est encore la cause à laquelle tu nous appelles. C'est ta cause à toi, Seigneur. La cause de Christ. Nous voulons, Seigneur, ne jamais oublier ce à quoi nous sommes appelés. Nous voulons jamais oublier cette bonne nouvelle que nous avons reçue. Nous voulons toujours, Seigneur, la porter. Toujours la laisser pénétrer en nous, remuer en nous ce qui a besoin d'être remué. Voulons, Seigneur, laisser l'autorité au roi parce que nous sommes dans le royaume de Dieu par ta grâce. Et que ta parole, qui est le code civil de ce royaume, puisse être, Seigneur, notre mot d'ordre de tous les jours. Nous voulons, Seigneur, agir en ton nom et pour glorifier ton nom. Voilà pourquoi nous pouvons faire cette prière, Seigneur, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Oui, nous savons que c'est ça la cause de Christ. Et nous voulons, Seigneur, encore ce matin, réaliser l'importance de l'engagement que nous avons prononcé un jour devant toi. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous encourage, qui nous montre aussi les difficultés du chemin, mais qui nous donne des promesses merveilleuses qui nous permettent de tenir bon, que ta vie éternelle, Seigneur, elle est déjà là pour nous, elle est déjà à notre disposition pour que nous puissions, Seigneur, tenir bon, avoir la puissance de résister dans les souffrances et marcher en glorifiant ton Saint-Nom, Seigneur. C'est là notre désir, notre prière. Voulons, Seigneur, te bénir encore dans ces mêmes moments et te louer et repenser à ce que tu as fait sur le bois de la croix, Seigneur. Amen.